Pour la prédication d'aujourd'hui, nous allons conclure notre série intitulée « Une vie nouvelle » où nous avons parcouru toute l'épître de Philippiens à raison d'une prédication par mois sur l'épître aux Philippiens. Nous avons fini le mois dernier, mais nous allons néanmoins conclure un petit peu ce thème aujourd'hui de la nouveauté. Vous avez peut-être remarquez que sur la feuille justement des sujets du groupe de maison que vous aviez reçu en septembre, eh bien il y avait à chaque fois le mot « nouveau » qui était dedans. Un nouveau cœur, de nouveaux objectifs, de nouvelles attitudes, de nouvelles responsabilités, de nouvelles amitiés, une nouvelle assurance, de nouvelles ambitions, de nouvelles ressources, une nouvelle générosité. Et tout cela pour conclure aujourd'hui par une vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et j'ai choisi ce verset de Jean 3,16. Alors si je vous dis Jean 3,16, vous me dites « Car Dieu a tant aimé le monde, allons-y ensemble, qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Toute personne ou quiconque, etc. Il y a plusieurs façons de formuler ce verset. Beaucoup connaissent ce verset par cœur dans nos milieux évangéliques. Et il est tellement connu qu'on pourrait presque ne plus l'écouter. On estime que ce verset résume en quelques mots le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'en citant simplement ce verset, même dans une version en français courant, le message soit si facilement compris aujourd'hui. C'est d'ailleurs souvent le cas avec tout ce qui est les résumés. Quand on résume un message et qu'on se contente du résumé, est-ce qu'on en comprend vraiment toute la portée ? Et je vous propose donc un défi ce matin, c'est essayer de donner un relief nouveau à ce verset, pour ceux qui le connaissent déjà par cœur depuis de nombreuses années, de l'expliquer et de le formuler dans des termes aussi peut-être un peu plus simples que tout le monde pourrait comprendre aujourd'hui. Et un mot d'abord sur le contexte. Ces versets font partie d'un dialogue entre Jésus et Nicodème. Alors, on ne sait pas exactement, parce qu'à un moment donné, le dialogue s'arrête, et on ne sait pas exactement dans le texte, il y a des débats entre les commentateurs, où est-ce que le dialogue vraiment se finit, et que là, on entre dans un enseignement de Jésus, peut-être à tous, et pas juste à Nicodème en privé, peu importe. Mais on est dans ce contexte-là, au Jean chapitre 3, d'un dialogue de Jésus avec Nicodème, un pharisien. Un contexte bien précis, différent d'une autre aujourd'hui. Le pharisianisme, c'était le parti religieux juif majoritaire au temps de Jésus, un parti religieux qui insistait sur le respect de la loi et les règles de pureté. La plupart étaient des juifs pieux, sérieux dans leur foi, mais quelques-uns se sont farouchement opposés à Jésus. C'est pourquoi Nicodème vient le voir en toute discrétion, de nuit, pour ne pas être vu. Il engage le dialogue avec Jésus avec des paroles qui sont très respectueuses envers Jésus. Et Jésus répond par une phrase énigmatique, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. » Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Et là, Nicodème ne comprend pas comment ça pourrait-on retourner dans le ventre de sa mère pour naître une deuxième fois, naître de nouveau. Mais la nouvelle naissance dont Jésus nous parle n'est pas de la même nature, évidemment, que notre venue au monde par la naissance naturelle. Il s'agit d'une naissance spirituelle, la naissance à une vie nouvelle qui ne relève pas du ventre de notre maman, mais de l'Esprit de Dieu. Et Jésus le précise clairement dans ses propos. C'est la vie éternelle dont nous parle ce verset que nous connaissons par cœur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Ce verset nous parle d'abord de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, on pourrait traduire. Et là déjà, ça pourrait bloquer. dans certaines religions orientales, comme le bouddhisme par exemple, le but de la spiritualité, c'est le détachement, c'est de se détacher, de ne plus être attaché à rien de matériel. Car l'attachement est la cause de la souffrance. Et d'ailleurs, ils font souvent, certains moines dans certains monastères bouddhistes font des exercices spirituels destinés à s'entraîner, à se détacher de tout, à ne ressentir plus aucune forme de souffrance ou de douleur. Et alors, ils passent des fois des heures, vous avez peut-être vu ça dans des reportages ou alors sur Internet, des heures à faire des espèces de mosaïques très très minutieuse, avec des grains de sable, alors je ne vous dis pas, il est trié d'abord entre couleurs, etc. Et ils font une œuvre d'art magnifique, une mosaïque à base de grains de sable. Ils passent des milliers d'heures, et ensuite ils balayent tout ça avec un balai. Et ils doivent essayer de ne rien ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes, se détacher totalement, toute forme d'attache. Et alors un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui serait attaché aux êtres humains, pour eux ça n'a pas de sens. Ce sera un Dieu plutôt curieux, un Dieu qui ignore que l'attachement est la cause des souffrances. Voilà un point où ça pourrait par exemple bloquer. Mais il n'y a pas que dans les religions orientales que la notion d'amour de Dieu peut bloquer. Dans nos sociétés, notre société occidentale aussi. Vous êtes-vous déjà trouvé devant quelqu'un qui vous dit « Mais comment peut-on parler de l'amour de Dieu quand on regarde le monde qui nous entoure ?» Eh bien oui, ce sont des interrogations que nous avons et que nos concitoyens ont. Quand on voit les guerres, les injustices, les catastrophes, comment peut-on encore dire que Dieu nous aime ? Alors vous vous dites peut-être, oui mais attention, le texte est au passé. Dieu a tant aimé le monde. C'est au passé, certes, mais alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne nous aime plus ? Qu'il ne s'intéresse plus à nous ? Qu'il nous a laissé tomber ? Bien sûr que non. Cela dit, la formule verbale a son importance. Dieu a tant aimé le monde. Ça fait quand même référence à un moment particulier dans le passé où l'amour de Dieu pour le monde s'est manifesté. Et c'est la suite du verset qui le précise, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors une autre question peut se poser, Dieu a-t-il un Fils ? Dieu a, voilà, pas au sens en tout cas où nous pouvons l'entendre, pour nous qui sommes père ou mère. Nous avons là un langage qui nous permet de comprendre quelque chose qui nous dépasse, un peu comprendre. Ce serait aussi absurde de penser que Dieu est le Père, comme nous, en tant qu'être humain, nous pouvons être Père ou Mère. Ce serait aussi absurde que la question de Nicodème qui demande à Jésus « Peut-on revenir dans le ventre de notre maman pour naître une deuxième fois ?» C'est une façon imagée de parler. Et même mystérieusement d'entrevoir un peu la richesse de notre Dieu. Dieu, qui est un être unique et absolu, par définition, nous ne pouvons pas tout comprendre de lui. Il est insaisissable, en tout cas dans sa totalité, par notre intelligence. Pour parler de l'être suprême, la Bible nous parle de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu unique, l'être suprême qui est unique, est pourtant aussi multiple en lui-même, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Un Dieu relationnel, qui est relationnel dans son être même, en perpétuelle relation, un Dieu qui vit et qui aime avant même d'avoir créé l'humanité. Dans son sein même, il y a une communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Dieu est amour par essence, par nature. Il est amour parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment depuis toute éternité. Il y a là un mystère qui nous dépasse et nous émerveille, Et c'est un mystère qui rejoint un autre mystère qui est proclamé haut et fort par les évangiles. Dieu a aimé le monde en donnant son Fils. Dieu n'a pas aimé le monde en solutionnant tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Il a aimé le monde en partageant nos souffrances jusqu'à la mort. Dieu a aimé le monde en devenant l'un des nôtres, en Jésus, et sa naissance l'atteste. Dieu a aimé le monde en partageant notre condition de créature. Il a vécu parmi les humains, il a fait preuve de compassion et de générosité. Il a parlé de Dieu comme personne d'autre, et ses enseignements demeurent actuels aujourd'hui encore. Dieu a aimé le monde en acceptant de mourir. Lui qui était innocent, il est devenu solidaire de notre humanité. Enfin, Dieu a aimé le monde en remportant la victoire sur la mort par la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous disent les évangiles. On peut toujours prétendre que c'est inventé ou enjolivé, mais si c'est vrai, et je le crois, alors c'est bien la meilleure nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. La deuxième moitié du verset maintenant souligne le but, l'objectif aussi de cet amour de Dieu, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Là aussi, je voudrais vous faire remarquer, ça pourrait bloquer aussi, encore une fois pour les religions orientales, de plus en plus influentes dans nos sociétés, dont le but, en tout cas pour le bouddhisme, est précisément de ne plus se réincarner pour se fondre dans l'espèce de néant, le nirvana. Les bouddhistes ne sont pas intéressés par la vie éternelle. La vie qui se réincarne dans un cycle continu, c'est plutôt une malédiction. Il faut expier un certain karma pour être délivré du cycle de ces réincarnations et donc ne surtout pas avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle ? Il ne faudrait pas se tromper, ce n'est pas seulement devenir immortel. Qui voudrait d'ailleurs vraiment de l'immortalité, de poursuivre sa vie, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, sans jamais mourir ? Peut-être qu'il y en a qui veulent prolonger au maximum la vie. Il y a certaines philosophies, comme le transhumanisme, qui voudraient arriver à créer un espèce d'homme-robot éternel. Mais si on réfléchit vraiment, la vie, elle est belle parfois, mais pas toujours. Qui voudrait éternellement passer par des moments de joie et des moments de tristesse, des moments de grande souffrance, et que ça dure l'éternité ? Qui vraiment le veut, ça ? Notre vie est aussi faite de souffrance, de frustration. Et ça, on n'a absolument pas envie de le vivre éternellement. Pour que la vie éternelle soit vraiment une bonne nouvelle, il faut autre chose que simplement une vie qui ne s'arrête jamais. La vie éternelle, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est la vie avec Dieu. C'est une vie remplie de la présence du Dieu éternel et purifiée de toutes sortes de mal. L'espérance chrétienne n'est pas d'avoir ici-bas une vie qui ne se termine jamais, évidemment. L'espérance chrétienne, c'est de laisser la vie de Dieu entrer dans notre vie, faire irruption dans notre vie. Et l'assurance chrétienne, c'est que rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour saisir et vivre cette promesse, la Bible nous dit, il s'agit de croire, non pas être crédule ou naïf. Croire, c'est choisir de faire confiance à celui qui sait tout et qui sait bien mieux que nous, et entrer dans une relation personnelle avec lui. La foi ne s'oppose pas au sentiment ou à la raison. La raison a sa place dans la vie du croyant. Il y a une intelligence de la foi. Il est essentiel d'ailleurs de réfléchir à notre foi, à la cohérence de ce que nous croyons et ce que nous sommes capables d'affirmer, d'argumenter, de défendre, d'affermir notre foi. Les sentiments et les émotions ont aussi leur place dans la vie du croyant, parce que la vie chrétienne n'est pas qu'une affaire de croyance abstraite, théorique, c'est une réalité à vivre, et dans la vie, eh bien, il y a toutes sortes de dimensions. Dans toutes les dimensions de notre vie, nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. Mais fondamentalement, c'est la foi qui nous permet de connaître Dieu. Pas la raison, ni les émotions. Si on attend d'avoir une certitude absolue de l'existence de Dieu, par exemple, pour devenir chrétien, on ne le deviendra peut-être jamais. Après, quand on est chrétien, peut-être que ça nous semble après une évidence. Si notre vie chrétienne est portée aussi seulement par des émotions, même si elles sont ressenties lors d'une expérience spirituelle, eh bien, on va au-devant aussi de grandes difficultés. Les émotions, à un moment donné, au bout de quelques secondes, en général, s'arrêtent. Les émotions viennent, puis repartent. La foi, croire en Dieu, c'est choisir de lui faire confiance. Malgré les doutes, malgré les questions, les frustrations et les blessures enfouies au fond de nous. C'est la foi qui nous relie à Dieu. Elle vient éclairer de la présence de Dieu toutes les sphères de notre existence, y compris notre raison et nos émotions. Et c'est pourquoi la vie éternelle dans laquelle la foi nous fait entrer n'est pas simplement une promesse à venir après notre mort. C'est une réalité dès aujourd'hui, cette vie nouvelle que nous recevons de Dieu dès aujourd'hui, dans sa présence, dans la présence du Dieu vivant et éternel. C'est cette foi qui nous fait passer de la mort à la vie et qui nous fait naître à une vie nouvelle, la vie éternelle. Quelques mots de conclusion. L'amour de Dieu a été pleinement manifesté dans la personne de Jésus. Et l'invitation nous est lancée de croire, de faire confiance à Dieu, afin d'entrer dans une vie nouvelle, une vie avec Dieu. Lorsqu'on dit cela, on a l'impression d'avoir vraiment dit des choses, mais il ne suffit pas de les dire. Maintenant, reste à le vivre. Parce que la foi n'est pas qu'une décision que nous prenons une fois pour toutes. Bien sûr, il y a un moment peut-être où, qui a été déterminant dans notre vie, ou alors ça a été un cheminement plus progressif. Mais ce choix de la foi est à renouveler sans cesse, tout au long de notre cheminement ici-bas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est baptisé, qu'on ne connaîtra plus d'épreuves et de difficultés, qu'on n'aura jamais plus de doutes ou d'interrogations. Sans cesse, nous sommes appelés à croire, à choisir de placer notre confiance en Dieu. Nous sommes appelés à nous approprier sans cesse les promesses que la parole de Dieu contient et cette promesse de Jean 3,16 qui nous dit, et je reformule très légèrement, « Dieu m'aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que si je place ma confiance en lui, je découvre chaque jour et pour toujours la vie avec Dieu. » Amen. Thank you.